France Inter.
Aïs Fega, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La vie dure des préjugés sexistes comme le foot, c'est pas pour les filles, entendu sur les terrains en cette journée internationale des droits des femmes. Nous verrons aussi que l'index de l'égalité professionnelle fait du surplace. Des mesures fortes réclamées par les magistrats marseillais pour lutter contre le trafic de drogue. Aux États-Unis, Joe Biden devant le Congrès appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Nous serons en Iran qui se veut à la tête d'une alliance anti-Israël. Et puis les fans de manga ébranlés par la mort d'Akira Toriyama, le dessinateur de Dragon Ball. Le manga aux 260 millions d'exemplaires.
À 7h50 sur Inter, 10 milliards d'euros d'économies annoncées pour cette année, 20 milliards l'an prochain. Faut-il vraiment couper dans les dépenses publiques? Et si oui, où? C'est le débat éco entre Dominique Seux et Thomas Porcher. Et à 8h20, grand entretien avec les voix du podcast Outside Kaboul, deux femmes afghanes, Marwa et Raha, et l'autrice du podcast, Caroline Gillet.
C'est devenu le sport préféré des femmes. Pour la première fois, le football supplante le tennis dans le cœur des Françaises. À 36%, elles disent préférer le ballon rond à la petite balle jaune. Résultat du baromètre de la Ligue de foot professionnelle qui, en cette journée internationale des droits des femmes, annonce aussi s'engager avec l'association Her Game 2 qui lutte contre le sexisme en tribune. Car même s'il y a plus de 6 millions de femmes qui supportent un club de foot professionnel, elles ne sont que 10% des licenciées et les clichés sexistes ont la vie dure dans le milieu. Pour preuve, ces témoignages de jeunes footballeuses de l'AS Mussy-Pontaine. Manon Mella est allée les rencontrer au bord du terrain à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle.
Sana, Yasmine, Rania, Mira et Ilham ont entre 15 et 20 ans. Et bien souvent, lorsqu'elles jouent au foot en public, pendant les matchs ou dans leur quartier, les remarques sexistes fusent.
Souvent, on nous dit, ouais, les filles, c'est pas fait pour le foot. Même pendant des matchs, ils disaient qu'on était nuls, qu'il fallait retourner à la cuisine.
Qui dit ça?
Les hommes.
Les garçons.
Même genre de réflexion sur le terrain lorsqu'elles jouent contre des garçons.
Quand c'est un match contre des garçons, si on gagne, on dira la honte, vous perdez contre des filles et des trucs comme ça. Et du coup,
avant de commencer le match, pour eux, ils savent qu'ils vont gagner.
Ouais,
du coup, au final, quand c'est nous, on gagne, et ils sont dégoûtés, quoi. Et du coup, nous, on est contents.
L'autre injustice, c'est le public et la famille qui se déplacent moins pour aller voir les filles jouer.
Genre, les parents, ils sont jamais disponibles, alors que pour les garçons, il y a vraiment presque toute la famille, ils y vont.
Et ils se battent carrément.
Ouais.
C'est un peu injuste. Les parents, ils peuvent bien se déplacer pour les garçons, donc pourquoi pas pour les filles.
Leur joueuse préférée,
Sakina Karchaoui.
Sakina Karchaoui, défenseuse des Bleus, qui a elle aussi essuyé de nombreuses remarques plus jeune. Elle est un modèle qui les inspire.
On sait qu'on peut y arriver. Si elle a réussi, pourquoi pas nous?
C'est des exemples pour nous.
Ces discriminations, ces remarques, elles ont décidé d'en faire une force.
Ça nous donne encore plus confiance en nous. On va continuer jusqu'au bout, en fait.
Au mois d'avril, elles s'envoleront pour le Maroc pour sensibiliser les jeunes filles berbères de l'Atlas à la pratique du foot.
Cette journée du 8 mars, marquée par une cérémonie très rare et symbolique, la pose du sceau sur la Constitution où est désormais inscrite l'IVG, ce sera à midi au ministère de la Justice en public. Et toute la journée, 200 manifestations pour dénoncer les inégalités salariales. À temps de travail équivalent, les femmes gagnent toujours 15% de moins que les hommes dans le privé. Pour y remédier, le gouvernement avait lancé il y a 6 ans la création d'un index, une note sur 100 publiée par chaque entreprise, censée inciter les mauvais élèves à corriger le tir. Mais force est de constater que cet index patine. Le bilan de l'outil est en demi-teinte de l'avis du Haut Conseil à l'égalité, Claire Chaudière.
5 ans après l'index, toujours pas d'égalité, le titre du rapport donne le ton. Ce nouvel outil aura permis de rendre plus visible l'existence d'écarts de salaire, dit-il, mais ses limites sont nombreuses. Des entreprises ayant une note de 90 points sur 100 ont été condamnées pour discrimination salariale et le nombre de pénalités, 42 seulement, est très faible, pointe le Haut Conseil à l'égalité, qui propose plusieurs améliorations. Muscler d'abord les objectifs à atteindre, automatiser le calcul de l'index via un logiciel pour éviter approximation, erreur ou triche, affiner la méthodologie de calcul sur les écarts de rémunération à poste égal, aujourd'hui plutôt sommaire, et ajouter des indicateurs cruciaux, aujourd'hui manquants, par des femmes dans les temps partiels, mais aussi dans les plus bas salaires des entreprises.
Pistes qui seront débattues dans les prochaines semaine. Et puis à 8h20, je vous rappelle que nous reparlerons des droits des femmes avec les voix des femmes afghanes.
7h05, le narco-banditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène.
Phrase choc prononcée par le président du tribunal de Marseille devant les sénateurs de la commission d'enquête sur les trafics de drogue. Les élus sont dans la cité phocéenne pour 2 jours pour se rendre compte de la situation sur place après une année sanglante record. 49 morts, 123 blessés dans la guerre des territoires. Mathilde Vincenot est notre correspondante à Marseille.
Le constat fait
fait froid dans le dos, résume le président de la commission d'enquête, Jérôme Durin. Il prend l'exemple de Marseille. Ici, les victimes du narcotrafic n'ont jamais été aussi nombreuses. Les tueurs sont de plus en plus jeunes. Lors des auditions menées par les sénateurs, une magistrate marseillaise a même affirmé que la guerre contre les trafics était en train d'être perdue. Le président du tribunal a lui réclamé un plan Marshall. Les entendre, c'était comme une promenade au bord du gouffre, explique Jérôme Durin.
Quand vous avez des magistrats qui parlent de gangrène, quand des habitants vous disent qu'ils peuvent pas rentrer chez eux après telle heure le soir, quand vous voyez des gamins qui sont victimes d'homicides, il y a de quoi avoir le vertige.
Les narcotrafiquants sont de plus en plus agressifs. Ils s'adaptent comme une entreprise libérale, s'inquiètent les sénateurs de la commission d'enquête. Et le phénomène est loin de se limiter à Marseille. Après s'être déplacé de la Seine-Saint-Denis à la Meuse, de la Bourgogne à Lyon, le rapporteur Étienne Blanc le martèle. Le trafic de drogue concerne bien toute la France.
Ce qui nous a frappé, c'est que jadis réservé au secteur très urbain, maintenant ce système, il inonde l'ensemble de la France. Et en Côte d'Or, on a saisi dans un village un laboratoire.
Rapporteur et président de la commission d'enquête parle d'une guerre asymétrique contre le trafic de drogue. Dans le rapport qu'ils présenteront en mai, ils comptent bien proposer des mesures pour redonner à l'État des armes pour lutter.
Mathilde Vincenot à Marseille. Des dizaines de milliards d'économies demandées aux dépenses publiques, mais une enveloppe de 2 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle militaire d'ici à 2030. Le ministre des Armées va annoncer aujourd'hui à Polytechnique la création d'une nouvelle agence. Dans le journal Les Échos, Sébastien Lecornu précise que 300 ingénieurs, chercheurs ou doctorants vont être recrutés. Un supercalculateur unique en Europe va aussi être installé au Mont-Valérien.
Anaïs, aux États-Unis, le sans-faute de Joe Biden.
À 81 ans, son discours devant le Congrès cette nuit était autant scruté par ses partisans que ses détracteurs. Et pas un bafouillement, pas un lapsus ou une confusion. Au contraire, le président américain, tout en humour, ton clair et ferme, s'est exprimé pendant plus d'une heure en débutant par l'Ukraine. Je ne plierai pas face à Poutine, dit Joe Biden.
Si quelqu'un dans cette salle pense que Poutine s'arrêtera à l'Ukraine, je vous assure qu'il ne le fera pas. L'Ukraine peut arrêter Poutine si nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine et que nous lui fournissons les armes dont elle a besoin pour se défendre. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. Nous ne nous plierons pas.
Joe Biden, propos recueillis par Sébastien Paour, le président américain qui demande aussi un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza et avertit Israël, je cite, que l'aide humanitaire ne peut pas être une considération secondaire. Les États-Unis vont construire un port temporaire à Gaza pour y acheminer par la mer de la nourriture, des médicaments et des abris. Une goutte d'eau dans l'océan tempère l'ONU, on y revient à 8h. Et pendant ce temps, les affrontements entre Israël et le Hezbollah libanais laissent toujours craindre une extension du conflit, car derrière le Hezbollah, les rebelles outils du Yémen ou encore le Hamas, se profile l'ombre de l'Iran, où le soutien à la Palestine et la menace des intérêts israéliens fait office de doctrine officielle. Reportage à Téhéran de notre envoyé spécial Timur Özturk.
À mort Israël, lance Ali à la sortie de la grande mosquée Mossala de Téhéran. Le jeune homme, exalté, se dit prêt à aller combattre.
S'il fallait choisir entre le diable et Israël, je préfère encore le diable. Si on ne va pas les combattre là-bas, il faudra un jour les combattre sur notre sol.
Le discours est celui du régime iranien, l'ennemi juré d'Israël. Mohammad Hosseini, vice-président du pays, s'en félicite.
Aujourd'hui, les combattants de la résistance en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen, et surtout le peuple innocent de Gaza, ont les yeux tournés vers l'Iran, qui est leur soutien le plus fiable.
Un soutien, mais pas plus. Depuis 5 mois, l'Iran tente d'éviter la confrontation directe, comme l'assume Hosseini, qui porte le turban blanc des Mollahs.
L'Iran n'interviendra certainement pas. Comme ont déclaré les autorités iraniennes, le peuple palestinien et la résistance du Hamas vont s'en sortir. Il n'est pas nécessaire que l'Iran s'implique directement.
À la fin de la prière, la foule des fidèles répond, elle, sans entrain, au slogan anti-israélien.
Timur Özturk, reportage à Téhéran pour France Inter. À l'étranger encore, ce blanchissement massif de la grande barrière de corail de l'Australie constaté par les scientifiques. C'est le 7e épisode depuis 1998 dû au réchauffement de l'océan Pacifique. Quant à l'océan Atlantique sur nos côtes, il nous réserve de grandes marées pour les prochains jours. Elles commencent dimanche soir avec un coefficient de 95 et vont durer plusieurs jours. Alors les communes littorales se préparent dans l'urgence. Marius de Lyonnais s'est rendu en Vendée à la Tranche-sur-Mer.
Le problème aujourd'hui, c'est que certaines maisons se retrouvent collées à la dune. Catherine et Jean-Marie Frimodo, par exemple, habitent juste au-dessus de la plage.
Ça fait 40 ans qu'on est propriétaire d'une partie de la maison.
Avec les dernières tempêtes, la dune a reculé de 10 mètres. Elle grignote maintenant le jardin et se rapproche de la maison.
On subit, je dirais.
Quand on voit la vitesse à laquelle le sable part, ça fait très très peur, quoi.
Petit à petit, les Frimodo perdent du terrain. Des travaux d'urgence ont donc été menés cette semaine. Des sacs de sable posés devant la dune avec des puits en bois et des rochers. Une solution provisoire.
C'est le côté après plutôt pérenne. Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Il ne faudrait pas revivre un Xynthia, ce serait quand même dramatique.
Et parce que oui, beaucoup de riverains se souviennent de la tempête Xynthia en 2010. Des élus aussi comme Pierre-Jacques Carle, il est conseiller municipal en charge du littoral.
L'objectif de la commune, c'est qu'effectivement, on ait une vision à moyen et long terme. Mais on ne peut pas lutter contre les éléments, on peut juste ralentir leurs effets, quoi.
Et la municipalité commence maintenant à réfléchir à exproprier des habitants, les obliger à céder leurs maisons les plus proches de la dune pour protéger les autres. Derrière, c'est tout un quartier, le quartier de la Grière, qui est concerné. Une centaine de logements sont menacés par les grandes marées.
Et un coefficient de 116 est même attendu mardi. Les footballeurs marseillais presque qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa après la claque infligée à Villarreal 4-0 hier soir en attendant le match retour jeudi prochain. Enfin, le monde du manga orphelin ce matin de l'un de ses dessinateurs de génie. On vient d'apprendre la mort d'Akira Toriyama, le créateur du manga d'aventure délirant comme Dragon Ball. C'est grâce à lui que le manga avait pris son essor en France et au Japon. On est sous le choc, Karin Nishimura.
La triste nouvelle est apparue sur le site internet du magazine Shonen Jump. Akira Toriyama, créateur des hilarantes aventures Dragon Ball, Dr. Slump ou encore Sandland, s'est éteint soudainement le 1er mars, victime d'un épanchement de sang au cerveau. Tous les médias japonais ont relayé cette information qui est un choc pour plusieurs générations de lecteurs et pour le milieu du manga où il était une figure qui a influencé nombre de dessinateurs. À partir de 1984 et pendant plus de 10 ans, Akira Toriyama enchaîne dans Shonen Jump les épisodes de Dragon Ball, compilés en recueil, traduits en maintes langues et vendus à 260 millions d'exemplaires à travers le monde. Dragon Ball. Même 40 ans après, Dragon Ball reste une valeur sûre avec encore en 2022 de nouvelles déclinaisons en long métrage. Akira Toriyama, décoré par la France, restait encore actif à 68 ans passés. Il part trop tôt, laisse un trop grand vide. Je suis tellement triste de penser que je ne le reverrai pas, a commenté son héritier Eiichiro Oda, dessinateur de One Piece. Tokyo, Karin Nishimura, France Inter.
Voilà, le mangaka avait reçu en 2013 un prix spécial d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Il avait aussi créé des personnages pour des jeux vidéo. Les jeux vidéo qui avaient leur cérémonie des Césars hier, on appelle ça les Pégases. Meilleur jeu vidéo de l'année, Chants of Sennar, développé par un studio indépendant de Toulouse. C'est un jeu d'énigmes et de traduction sur les liens linguistiques entre les peuples dans un univers inspiré de la Tour de Babel. Tout ça est sur franceinter.fr.
C'était le journal d'Anaïs Feugat. À suivre, le zoom sur l'opération séduction du film Anatomie d'une chute avant les Oscars dimanche.